Depuis le début de la semaine, vous découvrez la brigade des blogueurs et des blogueuses. Et j'en profite pour vous dire que si vous êtes vous-même blogueur et que vous aimez parler de la gastronomie girondine, eh bien entrez en contact avec nous au 05 56 19 10 10. Pourquoi ? Parce que tous les jours, nous vous recevons un coup de cœur avec vos trouvailles. Et ces influenceurs, eh bien, vous invitent à tester, à rencontrer des personnes investies dans la gastronomie girondine. Comme eux, donc, vous allez retrouver ce rendez-vous pour de nouvelles voix qui partagent un moment avec vous dans cette vie en bleu. Et puis vous allez jouer aussi au cuisine. Trois questions autour du cannelé, deux candidats, peut-être vous. France Bleu Gironde vous offre encore deux invitations pour l'exposition Argentina à la Cité du Vin de Bordeaux. Vous serez également sur le marché avec France Bleu Gironde, avec votre rendez-vous des Capucins à Bordeaux et Nicolas Cabu pour le bon pain artisanal. C'est la dernière matinée pour la fête à la tomate avec Chef Jésus. Aujourd'hui, nous allons faire un gros plan sur les sauces tomates. Et puis le réchauffement climatique a relancé la crainte d'une humanité surpeuplée en proie aux guerres ou aux famines. Les scientifiques préconisent la réduction de consommation d'origine animale, comme va l'évoquer Philippe Vigier avant 10h dans votre rendez-vous Curieux avec la complicité de Cap Science à Bordeaux et Curieux.live. Dans la vie en bleu aussi, nous devions faire un objectif sur remise en selle avec Vélocité, la maison éco-citoyenne à Bordeaux. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Ça n'est pas possible ce matin. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de revenir sur les meilleurs moments de la vie en bleu de cette semaine dans un instant, après Jean-Jacques Goldman. Belle matinée.
Témoignez dans la vie en bleu sur France Bleu Gironde. 05 56 19 10 10.
Bertrand Blonsard et sa fille Violette dans le MAC de la vie en bleu, puisque vous avez traversé tous les deux à la nage au profit des Liens du Cœur, cette association qui développe en ce moment ce projet de construction d'une maison d'accueil des familles sur le site de l'hôpital Aulévêque à Pessac. Vous avez traversé le détroit de Bonifacio. Alors c'est un entraînement qui a été quand même assez rude, hein, vous nous l'avez dit il y a quelques minutes. Ça demande beaucoup d'investissement avec l'école, tout ça. Pour vous Violette, ça s'est passé comment ?
On y allait, ils venaient me chercher après l'école et on allait direct à la piscine.
Parce qu'il me semble que vous avez passé votre brevet cette année-là.
Oui.
Donc c'était quelque chose qui vous permettait de vous libérer aussi du stress.
Oui, voilà, ça me permettait aussi de me défouler. Après, j'étais plus zen.
Bon, 15 kilomètres, c'est pas rien. Donc, ça veut dire qu'il faut tenir. Vous étiez quand même accroché à une bouée, je crois. Donc, dans l'entraînement, est-ce que vous aviez déjà cette notion-là, Bertrand ?
En fait, l'entraînement s'est fait en deux phases, parce qu'on s'est entraîné à partir du mois de novembre. Donc là, c'est les mois d'hiver. Donc là, c'est entraînement exclusivement à la piscine. Alors, on a été coaché par un maître nageur que l'on connaît bien depuis plusieurs années. Et puis après, vers le mois d'avril, on a commencé les entraînements en eau vive. On est allé au lac de Maubuisson. Mais les premiers entraînements, c'était 14 degrés quand même dans l'eau. Effectivement, avec une combinaison. Et puis, dès le départ, en fait, je voulais assurer la sécurité. Enfin, notre sécurité est plus particulièrement celle de Violette. Donc, on a toujours nagé avec une sorte de bouée qui est accrochée à notre taille.
Mmh. Oui, c'est important. S'il y a un coup de fatigue, une crampe, c'est possible. Vous avez aussi pallié à ça. Et il y a toute la famille qui s'est mobilisée, en fait, pour vous accompagner, qui a préparé ce voyage avec vous et ce défi avec vous, Violette.
Oui, sur le bateau, pour nous accompagner, il y avait ma mère, ma petite sœur, mon oncle, ma cousine et son compagnon.
Alors, comment ça se passe quand vous revenez de l'entraînement? Vous racontez un petit peu vos défaillances et vos points positifs. Et puis, la famille participe à table avant de partir?
Après, en fait, on a eu beaucoup de débriefs lorsqu'on s'est entraîné en eau vive, parce que j'avais mon épouse Emmanuel et puis même la petite qui était sur un canoë. On y allait à chaque fois à des périodes où il faisait pas très beau, en fait, pour se dire, il vaut mieux qu'on s'entraîne dans des conditions difficiles. Donc, quand il y avait un peu de vent, des vagues, de la pluie. Donc, c'est vrai que tout le monde a été, on était tous dans l'eau, en fait, à ce moment-là. Enfin, tous sur ou dans l'eau. Et puis mon épouse, ouais, nous a pas mal coaché, de toute façon, s'est habitué aussi pour l'alimentation, parce que c'est presque 6 heures de nage que l'on a réalisé. Donc, on a aussi testé les barres de céréales, les boissons, comment suivre aussi, parce que c'est le bateau qui nous a donné le
ravitaillement.
Le ravitaillement, c'est ça. Et puis également, qui nous a donné la direction. Parce que quand on est dans l'eau, on voit plus grand chose, notamment à Maubuisson, on voit rien du tout. Et donc, c'était beaucoup plus facile lorsqu'on était en Corse, parce que là, on est dans une eau qui est limpide, et c'était comme dans le film Le Grand Bleu, quoi. On est attiré un peu par le fond.
Ah oui, il faut faire attention alors. Il faut être effectivement accroché à sa bouée. Pour les copines, comment elles ont vécu ça avant le défi? Est-ce qu'elles vous ont aussi soutenu, Violette?
Oui, elles étaient toutes à m'encourager. J'ai même reçu des messages avant que je parte pour savoir si je l'avais fait ou pas.
Ah oui. Pour savoir si vous alliez jusqu'au bout de l'idée ou si vous alliez vous dégonfler. Mais non, pas du tout. Le défi a été réalisé. Il est même terminé.
La vie en bleu sur France Bleu Gironde.
Et dans La Vie en Bleu, le mag, on parle de ces bons réflexes à avoir lorsque vous allez faire vos achats pour la rentrée scolaire de vos enfants ou de vos petits-enfants. Des repères simples à avoir avec vous, Ragnar Weissmann. On va voir en fonction des produits pour éviter justement cette pollution de l'air et préserver le bien-être des petits. Alors les feutres, par exemple, dont les fameux marqueurs.
Oui, effectivement, Isabelle, il faut savoir, la fourniture scolaire, c'est qui est difficile. Ils ne portent pas toujours les indications précises, des étiquettes, et puis ils sont pas forcément mise en avant par les enseignes aujourd'hui pour pouvoir choisir vraiment les fournitures saines. Néanmoins, comme tu disais, il y a quand même certains repères utiles. Le feutre, pour moi, c'est une des priorités. Ces feutres à tableau blanc, on en a parlé, et qui sont basés sur des solvants. Et le but, c'est que les solvants s'évaporent et les pigments restent sur la surface. Ce sont des solvants qui sont nocifs pour le système nerveux aujourd'hui pour les enfants. Et il faut éviter aujourd'hui d'acheter le feutre qui dégage une forte odeur.
D'accord.
Et repérer par exemple les mentions telles que à base d'eau, à base d'alcool, et si sur des marqueurs par exemple, dans ce cas on peut trouver des mentions sans toluène, sans xylène, que ce sont des solvants qui sont assez dangereux effectivement. Mais tout ça, on va vous donner les informations pour la suite, parce qu'il y a des guides à télécharger sur internet où on a vraiment ces explications là.
Alors, est-ce que c'est un coût plus élevé pour les feutres, dont ces fameux marqueurs à l'eau plutôt qu'à l'alcool? Et en faisant attention, est-ce que les bons produits sont plus chers que les autres?
Pas du tout, c'est non, vraiment une question de choix. Vous voyez qu'on a commencé de cet outil cartable CER, on avait dit, vous choisissez, vous allez dans le même magasin, vous allez pas plus loin, c'est pas plus contraignant, et vous allez trouver... Vous allez choisir entre les deux marques. Vous prenez la marque des feutres qui ne contient pas ce solvant-là, qui est au même prix. Donc, il n'y a vraiment pas de frein économique. D'accord. Ni contrainte, en fait, par rapport à ça. C'est seulement la volonté, le savoir.
Alors, l'école aussi, l'école sont très néfastes pour les enfants, parce que l'école, ça sent très fort aussi. Alors, est-ce qu'il vaut mieux prendre des colles fluides, de marques très connues, ou là aussi, il faut regarder les étiquettes?
Alors, l'école, il y a encore des choses à faire. Alors, il faut être honnête, ça a beaucoup évolué. Ouais. Certaines choses qu'on avait à l'époque, certaines substances sont interdites aujourd'hui. Du coup, c'est à l'époque, on les mettait sous le nez, ça nous procurait des sensations agréables. Ouais. Aujourd'hui, on a d'autres solvants, mais ils sont toujours à base de solvants. Dès que c'est liquide, c'est à base de solvants.
D'accord.
Mais par contre, si vous prenez le minimum, c'est vraiment de choisir sans solvant. Mais la définition des solvants est limitée. Alors moi, je vous conseille toujours donc d'éviter les colles liquides et toujours préférer les colles en bâton. D'accord. Et des préférences végétales si vous le trouvez. Alors des colles en bâton. Ce qui peut être une alternative sont aussi des colles roller. Là, vous allez éviter aussi ces expositions composées volatiles.
Alors le Blanco aussi est un produit toxique et pourtant il fait souvent partie de la liste des fournitures scolaires.
Oui, alors il y a de plus en plus des professeurs et d'écoles qui demandent aux enfants de ne pas amener les Blanco, et tant mieux. Le Blanco, effectivement, pareil, le fonctionnement, comment il fonctionne le Blanco? On met un Blanco sur un papier, et pour que le pigment reste, et le solvant s'évapore. C'est de cette façon-là, en fait, le pigment sèche, c'est pour ça que ça sèche très vite. Mais ce solvant-là, il se met en l'air, et les enfants le respirent. Et on a compris que c'est à base de solvant, parce que si vous retournez l'emballage, vous voyez déjà trois pictogrammes, souvent derrière, irritant, dangereux pour l'environnement et inflammable. Et quand vous voyez le pictogramme inflammable, vous avez compris, c'est pas à base d'eau.
Vous le remettez dans le rayon.
C'est un solvant. On va essayer de laisser ça dans le rayon.
D'accord.
Alors, comment faire? Alors, le meilleur choix, effectivement, c'est de pas du tout acheter du Blanco, parce qu'en plus, vous faites des économies et d'expliquer aux enfants, même pas pour des raisons d'éducation, accepter tes erreurs, t'as fait une erreur, c'est pas grave, tu prends le crayon, tu le barres, ton erreur. Et là, on n'a plus besoin du tout du Blanco. Ça, pour moi, c'est la meilleure solution. Et on achète moins. Si vous décrétez, j'ai besoin de Blanco, absolument. Dans ce cas, il faut mieux partir sur des Blanco secs, comme j'appelle, ce sont des souris, des rubans de correction.
D'accord.
Là, c'est vraiment le meilleur choix. Parfois, on peut trouver des blancos à base d'eau, mais c'est encore difficile aujourd'hui de trouver ce type de produit.
Alors, le papier recyclé aussi est important, de préférence, hein, ce papier-là. Bon, il est souvent aussi accepté par les enseignants, et tant mieux.
Alors, le papier recyclé, c'est effectivement difficile parce que souvent le papier recyclé, on en trouve plus en plus, mais effectivement, il n'a souvent pas la même blancheur. Il est un peu plus foncé et ça peut gêner. Et c'est vraiment une question des changements qu'on accepte. Le papier, ça sera peut-être un peu plus gris parce qu'il est recyclé.
Mais Ragnar Weissmann sur France Bleu Gironde dans La Vie en Bleu, le mag qui vous incite à acheter le cartable sain. Enfin voilà, vous avez bien compris, hein, des fournitures scolaires avec des labels qu'il faut bien sûr rechercher sur les emballages de ces cahiers, de ces crayons et de ces feutres. Dans un instant, La Vie en Bleu à nouveau avec Vanessa Balsi de Surfrider qui elle a marché durant quelques jours cet été en partant de la pointe de Grave jusqu'à Biarritz pour vous expliquer le réchauffement climatique avec ses incidences sur les côtes atlantiques et les côtes de notre région Nouvelle-Atlantique, c'est-à-dire l'érosion de ces côtes et aussi la pollution plastique dans les océans.
Témoignez, posez vos questions sur France Bleu Gironde. 05 56 19 10 10.
Bonjour Vanessa Balsi.
Bonjour.
Heureuse de vous recevoir. Alors ces dernières années, vous le dites, la côte en France métropolitaine a perdu 30 km² de territoire tout le long de l'océan. Vous avez décidé d'aller informer la population. C'est-à-dire, vous avez marché du 23 juillet au 21 août, de la Pointe des Graves jusqu'à Biarritz, pour dire comment et pourquoi il faut préserver l'océan et la côte.
Alors en fait, on est parti tout le long de l'île littorale, d'abord pour mieux le connaître, parce que le fond du projet, c'était d'apporter ce message aux gens, c'est que pour bien préserver, prendre soin de ce milieu exceptionnel qui est le littoral aquitain, il faut le connaître.
Bien sûr.
Et pour bien le connaître, il faut le pratiquer. Et donc on avait envie de mieux le connaître dans toute sa longueur.
Est-ce que le public a répondu présent?
Mais oui, parce que d'abord c'était l'été, hein, on a choisi la bonne période pour venir à la rencontre et on a rencontré effectivement les estivants mais aussi les résidents de ces communes littorales qui nous ont accueillis à bras ouverts et qui sont venus sur les stands de sensibilisation les après-midi pour venir discuter avec nous et mieux connaître ce littoral.
Il faut dire qu'il y a une caravane vous suivait, hein, parce que vous marchiez, mais il y avait une caravane aussi avec du matériel pédagogique.
C'est ça, il ne s'agissait pas seulement de marcher le long du littoral de façon anonyme, il s'agissait de s'arrêter dans toutes les communes et de venir à la rencontre de tous les publics pour leur parler non seulement de cette érosion, du recul du trait de côte qui touche particulièrement la côte sableuse aquitaine. Il s'agissait aussi de leur parler des impacts de l'homme sur le milieu marin, mais pas seulement, puisqu'on a aussi parlé de biodiversité et de tous les autres enjeux qui touchent à l'océan.
Alors, vous faites partie de Surfrider, Vanessa Balsi, et vous avez l'habitude de ce milieu. Est-ce que vous avez constaté des grands changements lorsque vous avez marché, puisque vous connaissez quand même un petit peu cette côte, Vanessa?
Alors, on la pratique depuis un moment et on est toujours content de la pratiquer et de venir à la rencontre du public. Et en fait, ce projet, il nous a montré pendant un mois que ça y est, la prise de conscience
est là.
Est là. La communauté est au courant. Elle sait que ce milieu est fragile, qu'il faut en prendre soin correctement, parce que notre survie en dépend.
France Bleu Gironde. France Bleu.
Dans La Vie en Bleu, le mag, Carole Stora-Calté. Carole, vous avez créé une méthode qui explique le changement climatique d'une façon rigolote aux enfants. Ça s'appelle Le Monde.
Ouka.
Et vous intervenez dans les écoles, comme à Sainte-Marie de Bastide à Bordeaux, dans le quartier Bastide. Alors on a été chercher le témoignage de Laetitia Casté pour bien comprendre l'efficacité de votre méthode. Laetitia travaille donc avec les tout-petits.
Carole Stora-Calté a eu la gentillesse de venir donc d'intervenir dans l'école le vendredi 20 novembre 2015. Et le déroulé de la journée s'est présenté de la manière suivante. Elle a d'abord rencontré les CP. avec les CP, elle a fait une lecture, elle a parlé donc de ce qui était important suite à cette lecture, selon les enfants, qu'est-ce qui était important pour la planète. De là après, pour justement les CP, il y a eu un travail à l'année qui s'est fait par mes soins, mais avec bien sûr l'œil avisé de l'ensemble des enseignants. Et après avoir rencontré ses CP, elle a rencontré donc les CE1, CE2, où là, elle a été un petit peu plus loin au-delà de la lecture et au-delà donc du débat et de savoir un petit peu comment ils gèrent chez eux au quotidien la gestion des déchets, s'il y a une démarche aussi autour de déplacements doux, le vélo plutôt que la voiture. Enfin, voilà, comment les enfants et comment les parents réagissent au quotidien. Et est-ce qu'il y avait une conscience comme ça de tous ces enjeux? Puis, par la suite, au niveau des CM1, CM2, elle les a reçus dans une salle beaucoup plus grande, où là, par contre, le discours a été un petit peu plus dense dans le contenu. Au-delà, certes, de la lecture, elle a pu discuter avec eux de tous ces événements qui étaient très perturbants et qui, d'ailleurs, notamment pour les plus grands, étaient déjà bien dans les esprits et certains étaient déjà bien tracassés par ces choses-là. Et je suis sûre que là, on ne les a pas encore, les enfants, mais je suis sûre que ça va faire partie des sujets dont ils vont vraiment remonter des inquiétudes à la rentrée.
Réaction, Carole Stora-Calté, à ce que vient de dire Laetitia Casté, qu'on salue au passage et qui est très appréciée par les enfants.
Oui, ben d'abord, je veux remercier Laetitia Casté. Franchement, elle est d'une sensibilité incroyable qui me touche beaucoup. Et c'est ça, en fait, les Oukas. C'est pas seulement expliquer, mais c'est aussi faire de la poésie avec eux, parce qu'en les faisant rêver, on va beaucoup plus loin.
D'accord. Alors, vous préparez, par exemple, aussi des quiz pour faciliter les échanges avec les élèves?
Oui, tout à fait. En fait, c'est une façon d'aller plus loin, justement. Des quiz pour inviter à réfléchir sur ce qu'on mange, d'où ça vient, comment on se véhicule, comment on s'habille, nos objets de consommation, le portable, on l'oublie trop souvent, mais il y a aussi un impact écologique important, notre façon de vivre, la consommation d'eau, avec des exemples toujours très concrets, et il y a plein de façons de le faire. J'ai notamment testé des quiz sur des cocottes en papier, et en général, ça les amuse beaucoup. Et ils rient. Alors, c'est très drôle d'ailleurs, parce qu'il y en a qui savent faire, d'autres pas. Donc, on leur apprend aussi comment utiliser des cocottes en papier. Certains les appellent pouette-pouette. Et ça ouvre la voie à plein de débats, des enfants qui savent plus ou moins de choses. Et donc, par la suite, les parents, comme les enseignants, peuvent aller beaucoup plus loin. Et c'est ça qui est aussi très intéressant. Et d'ailleurs, on voit Laetitia Casté donne plein d'exemples. Cette école, d'ailleurs, est vraiment exceptionnelle. Mais y a aussi d'autres écoles qui font des choses fabuleuses. J'ai une enseignante à la retraite qui travaille sur l'intelligence collective, qui elle, va faire prochainement des poteries autour des Oukas. Donc j'ai trouvé ça très original et personnellement j'adore les poteries. Des sorties à la ferme, le ramassage de déchets sur les plages en Nouvelle-Aquitaine, c'est quelque chose que moi je fais personnellement, mais je trouve ça génial qu'il y ait un instituteur qui entraîne ses enfants. Alors c'est vrai que c'est un peu décrié, mais en fait les enfants aiment beaucoup, parce qu'en fait on a plein de conceptions un peu préconçues sur tout ça, mais les enfants, eux, ils aiment faire des actions pour l'écologie.
Parce qu'il faut bien comprendre que si votre méthode Ouka existe aujourd'hui, c'est parce que justement c'est compliqué à simplifier juste ces explications pour que les enfants puissent imaginer les gestes à réaliser dès aujourd'hui et pour l'avenir.
Tout à fait. Ça a été l'origine de ce projet d'ailleurs. En fait, je travaillais sur le changement climatique. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien pour les petits et je me suis dit qu'il faut faire quelque chose pour eux. Et c'est comme ça que du coup, le projet est né.
Mmh. Et pour les tout petits, c'est plus simple que pour les adolescents?
Alors, en fait, oui, quand on sait le faire. Et il y a beaucoup de scientifiques qui ont de très grandes connaissances. Il y a beaucoup de gens, tout court, qui ont envie d'en parler. Mais il y a peu de gens qui savent, qui ont envie ou qui pensent parler aux tout-petits. Alors même qu'ils sont très concernés par la question. Mmh. Ils sont très sensibles. Ils sont très curieux. Et je pense qu'on ne s'intéresse pas assez à eux. Et en fait, cette méthode, c'est une méthode simple de, on peut dire, vulgarisation du savoir scientifique, avec toute la rigueur qu'on peut exiger du savoir scientifique pour la retransmettre, mais en la retransmettant de façon ludique et magique.
Le monde Ouka dans La Vie en Bleu, le mag aujourd'hui. Lundi, dans la vie en bleu, le mag, l'une des bonnes résolutions de la rentrée pour vous, il s'agit du compost. Alors, si vous ne savez pas comment et pourquoi installer un compost chez vous, quelles sont les facilités, les réductions de déchets passent par ce compostage, eh bien, on peut vous aider. Chez les particuliers, les professionnels, les collectivités, Marianne Thibault intervient. Ce sera l'invité du mag lundi, Marianne de l'association Au Ras du Sol, basée à Vélines. Et je vous rappelle que si vous voulez intervenir lundi à ce sujet, eh bien, vous êtes les bienvenus au 05 56 19 10 10.
Podcastez le magazine de la vie en bleu sur francebleu.fr.